Monsieur le chef de l'État est partout. Il est partout. Je suis partout. C'est drôle. Ça me rappelle quelque chose.
C'était Philippe de Vichy.
Un grand bonjour à tous les AMG et aussi aux auditeurs, moins modestes ou pas géniaux. Je ne veux pas qu'on parle de moi comme d'un va-t-en-guerre, vient de déclarer notre ministre atlantiste de la non-diplomatie, Bernard Kouchner. Pourtant, c'est lui qui appelait en 2003 à l'intervention militaire contre l'Irak, l'Irak de Saddam Hussein. Alors, c'est encore lui qui veut envoyer des troupes au Darfour. Et c'est toujours lui qui, hier, déclarait que nous devions nous préparer au pire, c'est-à-dire à une guerre contre l'Iran. Il prépare ainsi l'opinion publique à la possibilité d'une nouvelle guerre illégale, en termes diplomatiques, on dit préventive, contre l'Iran. J'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur le livre de Webster Tarpley, La terreur fabriquée made in USA. Son auteur, depuis près de 2 ans maintenant, essaye de sensibiliser le public sur le risque d'une extension du conflit irakien à son voisin iranien. Hier, les masques sont tombés. Un ministre de notre République vient d'avouer l'agenda géopolitique qui nous attend. Il est urgent de stopper la folie guerrière des néoconservateurs US, surtout quand ceux-ci ont de nouveaux alliés, jusque dans notre gouvernement. Merci à vous et bon courage.
C'est obscène quand ce monsieur parle de la charité. La charité, il n'y a pas plus humiliant pour l'être humain. C'est pas la charité qu'on doit. On doit qu'ils payent leurs impôts. On veut qu'ils payent leurs impôts et que ce soit partagé parce que le travail n'est pas payé. Le travail, non, on ne paye pas le travail. Mais donc ces gens-là, comme ils ne payent pas le travail, ils sont riches et font de la charité. Et ils donnent l'exemple des États-Unis pour la charité. Il y a 46 millions sous la seuil de pauvreté. Il n'y a qu'à aller voir SICO. Hein? Bon. Parce que c'est si court, parce que les gens n'ont pas payé leurs cotisations. Et ben, c'est pareil en France, il y a des patrons qui ne les payent pas leurs cotisations. Les gens ne veulent pas payer les lois sociales. Ben, c'est normal parce qu'ils ne payent pas le salaire. Alors il faut bien une compensation. Si on ne paye pas le salaire réel, il faut payer les cotisations pour la santé et pour la retraite. Alors ça fait comme autrefois, le monsieur dit, ah ben mon brave, je vais te donner une pièce. Là, il sort de son gilet, là, une petite pièce d'or. Là, je vais te donner une pièce. C'est l'horreur, ça. On a fait des lois sociales pour pas avoir ça. Et quand on parle de M. Sarkozy, il y a les patrons, ça fait plus de... Oui, ça faisait 20 ans, maintenant ça fait 25 ans, ils n'ont jamais payé leurs cotisations sociales. Jamais. Ils sont toujours en retard de cotisations sociales. Mais ils veulent avoir des avions, des voitures à la con comme des BM, ou des choses comme ça. Hein?
Salut Daniel, Laurent. Écoute, j'ai pas pu m'empêcher de téléphoner. Je viens d'entendre la dame dans ton reportage qui... ne connaissait même pas la valeur d'un jean. Pour elle, un jean coûtait 1000 euros. Enfin, 1000 euros, c'est presque ce que moi je touche par mois, et encore, je suis pas le plus malheureux. Voilà, 1000 euros, 900 euros, elle avait aucune valeur de l'argent. Et je voulais dire aussi, lui lancer ce message, moi je suis d'accord pour partir à Bruxelles ou à Malte, là où elle veut, à m'exiler fiscalement, c'est aucun problème. Il me manque juste un truc, l'argent. Salut Daniel.
Eh ben voilà, comme beaucoup, moi aussi je pense partir de France pour seulement pour des raisons officielles. Je ne suis pas végétarien, j'ai un gros 4x4 et j'aime ça, j'utilise l'avion, je vais faire du golf au Maroc, je n'habite pas le Marais, je n'utilise pas le Vélib. Plus je t'écoute, plus j'ai l'impression d'écouter Radio Paris, tu te rappelles? Tu n'as plus qu'à remplacer le mot riche par le mot juif et on y est. Je cherche un pays où il n'y a pas cet esprit critique, où il est de bon ton de désigner à la vindicte populaire une victime expiatoire. Et même, j'ai commencé mes démarches pour reprendre la nationalité de mes parents, pour ne plus être français. Salut les fonctionnaires de gauche qui leur douillent aux frais des autres. Salut les pauvres.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission. Comme d'habitude, j'apprécie le ton ironique avec lequel tu parles de ces riches exilés à Bruxelles et qui, grâce à leur exil fiscal, économisent 1000 à 2000 euros par jour. J'apprécie et en même temps ça me fait beaucoup souffrir et je tremble de colère en les entendant faire semblant de s'intéresser à l'exclusion sociale, à l'exemple de la fameuse charité chrétienne des riches bourgeois des siècles passés. Ces sans difficultés financières de Bruxelles ont le culot de déplorer le fait que l'État belge n'ait pas les moyens de lutter contre la pauvreté alors qu'il s'exile en Belgique pour justement ne pas payer à l'État belge les impôts qui permettraient de mieux lutter contre l'exclusion sociale ou contre l'éducation à deux vitesses ou contre diverses formes d'injustice sociale. Ces gens me dépriment profondément quand je pense à ma mère qui touche le minimum vieillesse. Et cette bourge-là qui s'extasie, que contrairement à ce qu'on croit, ne pas s'encombrer de choses à Bruxelles, c'est très agréable. J'en pleure de colère. Salut Daniel.
Bonjour Daniel, Caroline de Lyon. Donc j'ai cru que tu parlais de moi dans ton émission, puisque je suis une bourgeoise. Mes parents sont sûrement des bourgeois aussi. Il y a beaucoup de professions libérales dans ma famille, des oncles banquiers, notaires, avocats, vétérinaires. Donc, nous votons à droite depuis des générations, 95% de la famille vote à droite aussi. Et je vais te faire une confidence, Daniel, c'est que j'apprécie particulièrement ton émission, je l'écoute très souvent. Je suis une fidèle auditrice de France Inter. Et c'était ça, un message d'amitié tout simple. J'ai même écouté l'émission spéciale Fête de l'Huma, j'ai apprécié. Donc tout ça, c'est peut-être un paradoxe, parce que j'ai l'impression que les gens comme moi ne sont pas forcément appréciés dans cette émission. Et j'aime le ton, la liberté de ton de ton émission. Et je voulais simplement te poser une question, Daniel. Est-ce que tu as quand même un petit peu de sympathie pour moi ? Merci, continue et à bientôt.
Mais oui, Caroline de Lyon, la sympathie pour vous, mais un tout petit peu moins que le monsieur qui nous fait son petit chantage à l'antisémitisme. Mais on a toutes les sympathies pour vous, Caroline, et on va vous en donner la preuve aujourd'hui même, parce qu'on va encore parler de vous. On va encore aujourd'hui parler des riches et de la bourgeoisie. On nous a assez reproché dans le passé de trop donner la parole aux pauvres et aux exclus. Là, c'est pas du tout les exclus, ou à moins que ce soit une autre exclusion, puisque on va parler de ghetto. Le ghetto, les ghettos du Gotha. C'est un livre qui sort ces jours-ci et qui est signé de deux illustres sociologues, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Comme leur nom l'indique, ils sont mari et femme. Et depuis des années, depuis 20 ans, ils étudient de près, eh bien, votre monde, chère Caroline, celui de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie et du monde du dessus. C'est rare dans la sociologie. La plupart des sociologues s'intéressent à d'autres domaines, mais ils se sont trouvés les seuls ou presque à étudier ce monde. C'est que ce monde n'est pas si facile que ça à comprendre, à connaître. La bourgeoisie, traditionnellement, sait vivre à part, ne pas se faire remarquer, ni vu, ni connu. Si bien que savons-nous de votre monde, chère Caroline de Lyon? Et bien, on va sans doute en savoir un peu plus d'ici à la fin de cette heure, autour du livre de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, Les Ghettos du Gotha, comment la bourgeoisie défend ses espaces. On va plus parler des lieux, des territoires, des endroits. Bien sûr, vous pensez tout de suite Neuilly, Boulogne, etc. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Et je pense que vous allez en apprendre pas mal après, effectivement, ces deux jours passés à Bruxelles avec les exilés fiscaux. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, guide de la région lyonnaise, Info RG. À propos du paquet fiscal, pour renforcer les chiffres de Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative Économique, Humanité Dimanche du 5 septembre nous indique que les 900 personnes au patrimoine supérieur à 15 millions d'euros se partageront 176 millions de réductions d'impôts. Si l'on réduit le patrimoine à la tranche supérieur à 7,140 millions d'euros, il sera un peu moins de 13 000 foyers à récupérer 583 millions, soit près de 46 000 euros par foyer. Et que représente 46 000 euros pour ceux qui devront travailler plus pour gagner plus? Je me suis autorisé ce petit calcul. Pour un smicard, il faudra travailler samedi et dimanche à raison de 7 heures par jour pendant 7 ans. Démonstration. Le smic horaire, majoré en hors sup et exempt de cotisation sociale, tournera autour de 10 euros. Retenons 10 euros par heure. Multiplié par 14 heures, soit samedi, dimanche, 2 fois 7 heures. Multiplié par 47 semaines, c'est-à-dire 52 semaines de l'année, moins 5 semaines de congé. Multiplié par 7 ans, on obtient 46 000 euros. Voilà une représentation comparative de ceux qui gagneront plus en dormant et ceux à qui Sarkozy propose de travailler toujours plus. À bientôt.
Bonsoir, eh bien on en apprend de bonnes au journal télévisé sur France 2. Il paraît que ceux qui seront atteints de maladies de longue durée devront prendre une assurance privée. Eh ben voilà, ben ça y est, on commence déjà à être au système américain. Voilà, pauvre France, merci.
Oui, bonjour les auditeurs de l'émission. Daniel Mermet, bonjour à toi Daniel. Eh ben c'est un conducteur de train, là, il est 1h40. Et étant donné que nous sommes des nantis, des privilégiés, ben je vais partir au travail et je vais descendre sur Avignon pour une fin de service vers les 10h du matin. Et tout ça pour la mirifique prime de 6,56 €. J'ai rappelé notre président de la République qui va s'occuper de notre régime spécial de retraite. Eh ben, une fois qu'il aura fini de s'occuper de nous, vous inquiétez pas. Ce sera à votre tour, ce sera tous à notre tour. Allez, bonne continuation et le combat continue. Salut Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben si j'y suis avec Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, les ghettos du Gotha ou comment la bourgeoisie défend ses espaces. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Pinson-Charlot, ça fait quand même un peu... C'est pas roué qu'on balusier, mais ça n'est pas loin. Hein.
Ça commence à... Erkman Neschatrian ?
Oui.
La gare Michard.
Non, mais c'est des couples qui gagnent, quoi.
Oui, c'est des couples qui gagnent. Alors, on peut pas dire que vous faites partie des gens qu'on ne présente plus. Vous êtes sociologue, on a compris. Ça fait 20 ans que vous observez, que vous disséquez, que vous pesez, que vous supposez, que vous mesurez, que vous... Là, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, les riches, les possédants, on va essayer de faire des distinctions entre tous ces mots-là. Ce qui est intéressant, c'est que comme sociologue, vous êtes les seuls, ou presque, à vous être penché sur ce domaine social, sur ce champ social. Et pourquoi donc, Monique ?
Il y a de multiples facteurs. Moi, celui que je mets volontiers en avant, c'est à cause de mon mauvais caractère. J'étais très révoltée par le fait que, spécialisée dans la sociologie urbaine, il y a des dizaines et des dizaines de sociologues qui sont spécialistes de la sociologie de la ville. On se retrouvait toujours dans les mêmes endroits, auprès des plus pauvres, dans les cités défavorisées, à négocier les cages d'escalier entre les anthropologues, les ethnologues, les économistes et les sociologues. Et du coup, j'ai fait la proposition à Michel, en 87, de travailler ensemble. À deux, on est toujours plus fort. Dans les beaux quartiers, en me disant la locomotive des problèmes des banlieues défavorisées se trouve peut-être dans les beaux quartiers.
Et vous n'étiez quand même pas les premiers à vous intéresser, en tant que sociologue, à ce beau monde, au monde huppé.
Sans remonter aux ancêtres de la sociologie, disons qu'il y a quand même eu un prédécesseur tout à fait important, c'est Bourdieu, qui a écrit en particulier La noblesse d'État, où il est question beaucoup du patronat, des dirigeants d'entreprise, etc.
Les héritiers.
Les héritiers avant. La distinction où il parle quand même de la bourgeoisie. Donc c'est certainement dans la sociologie contemporaine celui qui a le plus travaillé sur la haute société.
Vous trouvez une filiation avec Bourdieu, une parenté?
Ah ben complètement. On est des disciples absolument parfaits de Pierre Bourdieu.
Disciplinés
et tout, mais pas des gens de cour. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en œuvre la théorie de Bourdieu qui correspond parfaitement à notre philosophie du monde, à notre système de pensée. Donc on est des sociologues vraiment heureux. Et on a été heureux de pouvoir appliquer ce système théorique sans autres ambitions que son application dans les milieux les plus fortunés de notre pays.
C'est un monde difficile que vous abordez, parce que quand vous dites les sociologues se sont plus penchés sur les dominés, c'est vrai que une cage d'escalier, les quartiers pauvres, les quartiers populaires, etc., c'est beaucoup plus facile d'accès. On a là le sociologue à une position dominante, il est celui qui surplombe, il est l'intello, et donc il a des... oui, il surplombe, hein, il est un petit peu dans son mirador, là. Tandis que quand on va dans les beaux quartiers, là, c'est des quartiers qui sont fermés, difficiles d'accès, il y a de l'entre-soi, et c'est des milieux qui sont difficiles à pénétrer, parce que ce sont des milieux qui se défendent, qui sont fermés.
Des milieux qui sont fermés, oui. Le plus dur dans l'approche, pour moi, pour Monique aussi, peut-être un peu moi, mais aussi, c'est de vaincre ce que Bourdieu, par exemple, a appelé la violence symbolique, c'est-à-dire cet effet de domination qui est ressenti, que les dominants font ressentir sans même le vouloir, tout simplement parce que ils ont des lieux de vie qui en imposent, de très grands appartements, parce que dans ces appartements il y a des tableaux de valeur, par exemple des objets d'art de valeur, parce qu'ils parlent très bien, parce que ils ont une exercice corporelle, une manière de tenir leur corps qui est élégante, décontractée, tout en étant très subtile. Bon, beaucoup d'aspects qui vous remettent à votre place.
Et ça vous, c'est quoi, c'est vos origines sociales vous ont aidé ou pas du tout dans cette l'un à l'autre?
Alors l'origine sociale et populaire, c'est un handicap énorme pour entrer dans ces milieux et pouvoir y être un peu à l'aise pour faire le boulot. En même temps, c'est un avantage fabuleux parce que la prise de conscience de la distance, de ce qui fait la différence, de ce qui fait cette violence symbolique justement, est beaucoup plus facile parce qu'on la ressent. Et donc, la ressentant, on arrive beaucoup mieux à la décortiquer et à l'expliciter.
Monique ?
Moi, je suis originaire de la petite bourgeoisie de province, mais disons d'une famille du côté maternel où j'avais un grand-père qui était un petit industriel, que ça emmerdait prodigieusement de fabriquer des rubans de soie à Saint-Étienne, et qui faisait de la peinture et du théâtre et du cinéma. Et il y avait 35 petits-enfants, il avait acheté l'école des frères non loin de Saint-Étienne, et donc j'ai eu l'habitude des grands repas avec 70 personnes, de savoir, et donc le capital social. C'est vrai que dans notre couple, on est très complémentaires. Et je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé à être forts tous les deux, parce que Michel a des qualités et des défauts, et il se trouve que les défauts qu'il a sont des qualités de moi, et ben vice versa. Et donc voilà, tout ça se passe bien.
Au début du bouquin, les ghettos du Gotha. Les ghettos, faut rappeler, les ghettos, c'est les ghettos de Venise, là où on enfermait les Juifs. Oui. Mais bon, maintenant, le mot n'est plus connoté avec le monde juif.
À l'origine, c'est bien ça, mais ça n'a pas de rapport avec l'appartenance ou non à la religion juive, ça n'a aucun rapport.
C'est un magnifique jeu de mots, quoi. Vous avez craqué devant le jeu de mots, les ghettos du Gotha.
Oui, en même temps, c'est un peu provocant. Hein. Mais cette provocation est quand même fondée sur quelque chose, c'est que nous sommes, Monique et moi, tout à fait persuadés que s'il y a des ghettos en France, ce sont les ghettos de la bourgeoisie. C'est-à-dire que s'il y a des lieux où il y a une identité sociologique, sociale très forte, qui s'inscrit et qui exclut les autres, ce sont les lieux de la bourgeoisie. D'où l'utilisation du mot Gotha. Et par exemple, à Paris, la Villa Montmorency est un lieu résidentiel de quelques centaines de maisons.
C'est juste à côté d'ici, à côté de la maison de la radio.
Pas très loin du tout d'ici, où il est impossible de pénétrer si on n'est pas invité, ou si on n'est pas invité pour venir changer une tuile sur le toit. Mais si on veut visiter, se promener dans ce grand espace tout à fait agréable, d'ailleurs très vert, avec de très belles maisons, vous ne pourrez pas rentrer.
Ce ne sont pas des ghettos subis, mais des ghettos volontaires. Ça, c'est très important à préciser. «
Dès sa naissance, un Versaillais sait qu'il se devra d'aller très loin. Déjà pour se rendre à la capitale, il est obligé de prendre le train. J'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse où le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces afin de rentrer dans un rang d'enfants tout très sympa, dont les principaux passe-temps sont le scoutisme et le bénévolat. Le carcan social est lourd, tout comme la masturbation rend sourd. C'est ce qu'il me répétait au catéchisme après les cours. Jamais un Versaillais ne sera capable de faire de mal à une mouche. C'est impossible puisqu'au fond de lui, il respecte bien trop la vie. Moi, c'est en grandissant à leur côté que je suis devenu un fervent défenseur en faveur de l'avortement ainsi que de l'euthanasie. Je suis inquiet, toutes les rues d'ici semblent avoir une maladie. Je ne suis pas docteur Esville, mais je crois bien que c'est l'ennui. Persuadé de faire partie d'une élite éduquée, alors que tout se pique à plat dans la queue de la blancherie ou du marché. Je ne connais pas d'autres endroits où à 40 ans les femmes portent encore des serviettes en velours, ascendant deuxième enfant et vont se confesser tous les jours. C'est d'ailleurs ici que plein de jeunes ont rencontré notre Seigneur Jésus. J'ai beau arpenter les rues, quoi de chance, je n'ai jamais vu. Marie-Charlotte aimerait me faire croire qu'elle a quelques amis basanés, mais ce sont que Pierre et Louis qui rentrent bronzés de l'île dorée. Dans la bibliothèque municipale, le temps semble soudain s'être arrêté, ce qui n'empêche personne de réviser pour Sciences Po ou HEC. Ici, bizarrement, il y a des choses dont on ne parle pas, comme du nombre de jeunes qui chaque année se suicident en classe prépa. Ils pourront dire ce qu'ils veulent selon septembre et ses événements. Pour moi, ce ne sont que des Versaillais voulant capter l'attention de leurs parents. Je pourrais partir maintenant, à mon retour, rien n'aurait changé. Quoi qu'il advienne, je porte en moi d'être né sous le signe du V.
Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Au tout début du bouquin, vous commencez par une inversion. Vous évoquez les militants d'autrefois, ceux qui vendaient l'humanité dimanche, les militants qui vendaient sur le marché, qui allaient de maison en maison. Et vous dites, ben voilà, maintenant les militants, ce sont les bourgeois. Les bourgeois sont des militants. Ça, on a du mal quand même à vous croire.
C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude, dès qu'on parle de lutte des classes, d'imaginer l'ouvrier, le poing levé, réclamant des sous à Charlot, enfin pas à moi, au général de Gaulle. Ou, bon,
Charlot des sous.
Oui. Charlot des sous. que c'est intéressant pour nous sociologues de renverser la lutte de classe et puis de parler de la mobilisation et du militantisme de militants peu ordinaires. En réalité, c'est vrai que la grande bourgeoisie est une classe très mobilisée et le militantisme est vraiment sur tous les fronts et dans tous les instants. Et donc dans ce livre, on montre avec l'interpénétration des cercles, la juxtaposition de toutes sortes de réseaux, comment finalement cette grande bourgeoisie, c'est une espèce de toile d'araignée qui où se tisse sans cesse le maillage du pouvoir.
On va parler de la bourgeoisie, donc d'une classe. Vous avez l'air de dire qu'il n'y en a plus qu'une. Si on vous le dit, on dit, ben voilà, il n'y a plus qu'une classe au sens d'une identité, au sens d'un monde qui fonctionne avec des systèmes d'allégeance et de solidarité en même temps. Et les autres classes, que sont-elles devenues? Parce que quand on dit bourgeoisie, on pense classe, et quand on pense classe, on pense lutte de classe. Quelle est la classe qui s'oppose aujourd'hui à la bourgeoisie, ou bien est-ce qu'il n'y a plus de lutte de classe?
C'est-à-dire que face à cette classe très mobilisée et dont les auditeurs peuvent comprendre qu'aujourd'hui c'est encore plus visible qu'hier, avec le nouveau président de la République, on voit bien tous les liens qui unissent les différentes élites, les différentes composantes de la classe dominante. Et face à cette classe dominante, on a les classes moyennes intellectuelles et les classes populaires, mais qui n'ont pas de patrimoine commun à gérer. Autrefois, la classe ouvrière, c'était le patrimoine industriel qui lui permettait d'avoir une identité, d'avoir des réseaux de solidarité, d'avoir des représentants au niveau syndical et politique. Tout ça a disparu parce qu'on est passé d'un capitalisme familial et donc social à un capitalisme totalement financiarisé et mondialisé, et sans aucune protection désormais pour les travailleurs. Donc voilà, la lutte de classe, c'est d'un côté une classe très mobilisée et qui remet du coup tout en question. On le voit bien aujourd'hui, le nouveau gouvernement, chaque semaine, on est dans un espèce de feuilleton sociologique, politique, de tous les instants, de tous les jours. Et face à ça, on est désemparé. Enfin, je veux dire, le reste de la société.
Est-ce que la richesse se conquiert et se maintient aux dépens des autres? Est-ce que les riches vivent aux dépens des moins riches ou des pauvres? Ou bien est-ce que c'est deux choses différentes?
C'est de plus en plus évident que la richesse suppose l'appauvrissement des autres.
Ça serait bien que vous me l'expliquiez bien. J'aimerais bien qu'on comprenne ça bien.
Et vaste compromis.
Il y a des exemples récents tout à fait probants, c'est-à-dire ces fonds spéculatifs qui ont spéculé sur les emprunts aux ménages américains qui étaient en dessous de la limite raisonnable pour emprunter et qui, sur ces montages tout à fait artificiels, ont amassé de l'argent et amassé des bénéfices. Ça s'est cassé la figure parce que bon, c'était évidemment très instable, et lorsqu'il y a eu une déficience de remboursement, ça s'est cassé la figure. N'empêche que ce qu'on voit bien, c'est que c'est sur la pauvreté et la difficulté d'emprunter que s'était construit un montage financier tout à fait aberrant. Et on a, d'une façon plus générale, pour les fonds spéculatifs, tous ces nouveaux produits financiers qui sont des produits de pure spéculation. C'est-à-dire, on parie sur les paris que font les autres sur le telle ou telle valeur mobilière. Donc, on gagne de l'argent uniquement en faisant des paris sur l'argent et la manière dont ça va fonctionner. C'est du prélèvement pur et simple, parce que l'argent, qu'est-ce que c'est du temps de travail. Ça permet d'acheter du temps de travail, soit comme bien, soit comme service. Donc c'est du prélèvement pur et simple sur la richesse collective.
Justement, à propos de ce livre, on est parti des questions de l'espace. Comme l'espace est quelque chose de tout à fait limité et que le pouvoir social donne un pouvoir considérable sur l'espace, on montre comment les familles du haut de la société se retrouvent toujours dans des beaux espaces classés historiques, préservés. Voilà, le périphérique des riches et le périphérique des pauvres. À l'ouest, c'est beau, tout est préservé et tout. Puis à l'est, c'est dur, c'est les grandes cités. D'un côté, on classe les choses de manière historique. À Neuilly, il y a beaucoup par exemple la maison de d'une des premières fortunes de France, de Madame Bettencourt. Son jardin est classé, sa maison est aussi classée bâtiment remarquable. Et puis à l'opposé, les tours implosent et on détruit le logement social. Donc on le voit bien fonctionner, l'espace étant limité, ce qui fait la richesse des uns fait, qu'on le veuille ou non, la pauvreté des autres.
Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'évidemment il y a la richesse financière sonnante et trébuchante, mais il y a d'autres richesses. Il y a le patrimoine, il y a les richesses symboliques, sociales, relationnelles, avoir le bras long, et puis les richesses culturelles.
Lorsqu'on a une belle fortune, on a en général aussi un certain niveau culturel, ne serait-ce que parce qu'on a du temps disponible. Ensuite, il y a les héritiers qui ont eu encore plus de temps que la première génération qui a fait fortune. Les héritiers qui ont l'avantage de naître dans un appartement qui est déjà bien meublé, avec des tableaux intéressants, des œuvres d'art, etc. Et le passage par des écoles où l'enseignement est particulièrement soigné, soit privé, soit public d'ailleurs. Donc les familles fortunées sont les familles qui sont présentes sur le marché de l'art, par exemple. Qui est-ce qui va aux ventes aux enchères de Christie's, par exemple, où il y a des œuvres de qualité à vendre? C'est des gens qui ont l'argent pour acheter. Bon, qui est-ce qui va dans les galeries acheter les œuvres des artistes contemporains, ou chez les antiquaires acheter les objets anciens de valeur? C'est les familles fortunées. Donc il y a concomitance entre une certaine forme de culture et la richesse.
Est-ce que c'est un classement, une justification, la culture?
Mais c'est les deux. C'est les deux, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est on est toujours dans la logique du cumul avec ce milieu. La culture, c'est à la fois des placements économiques, mais c'est aussi de la culture, de la connaissance, de l'histoire de l'art. Et du coup, ça légitime en quelque sorte la richesse économique. C'est vrai que ce sont les gens avec lesquels on travaille, ils sont assez sociologues. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils assument assez bien nos travaux de sociologie, parce qu'ils reçoivent une éducation où tout est sans arrêt dit, codifié, formalisé, pour assurer la transmission de ces immenses richesses, de ces héritages importants à la génération suivante. Donc, on est dans la mobilisation, on est dans le dit, le redit, les déterminismes sont là, et peut-être que y a un espèce de... Enfin, je parle un peu sous ton contrôle, Michel, mais un espèce de bonheur de vivre en toute sérénité, parce qu'au fond, ils appliquent leur habitus, ils vivent leur habitus, comme nulle part ailleurs dans l'espace social.
Ce qu'on peut dire, et le livre Les ghettos de Goethe, c'est un peu l'un des sens du livre, c'est que c'est la haute société a un privilège parmi tant d'autres, qui est de vivre dans des espaces qui lui correspondent, qui sont les siens. Or, c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre du privilège, parce que la plupart des autres catégories sociales vivent dans des espaces mélangés, perturbés par des gens qui ne leur ressemblent pas, qui posent des problèmes dans tous les sens, hein, ça va cette histoire-là. Donc, voilà, il y a cette forte spécificité que l'on essaye de démêler aussi dans les ghettos du Goethe.
Quand vous êtes à l'intérieur de ce monde de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de la richesse, etc., de l'intérieur de ce monde-là, comment voit-on le reste du monde? Comment voit-on les modestes, les pauvres, les classes inférieures, le petit peuple?
Ben, on la voit pas tellement déjà, on la voit pas souvent. On voit les gens qui sont à votre service. Lorsqu'on est industriel, bon, il faut bien aller à l'usine quand même de temps en temps. Et la représentation que l'on en a est à peu près symétrique de la représentation que les gens modestes ont de la richesse. C'est-à-dire que on ne prend pas la mesure de la difficulté de la vie quotidienne des gens modestes. Par exemple, les déplacements pour aller au boulot en région parisienne. Lorsqu'il faut tous les matins être à 7h dans le métro et à l'heure de pointe, etc. Ça, c'est des choses qu'ils n'expérimentent pratiquement jamais, dont ils n'ont pas vraiment conscience.
Alors, on raconte dans notre livre les rencontres quotidiennes sur les Champs-Élysées entre les grandes familles qui habitent encore dans le 8e ou qui viennent pour le Travelers Club qui est sur au 25 avenue des Champs-Élysées ou qui viennent pour leur boulot. Et là... Ces grandes familles ont tout un discours sur les touristes ou les jeunes qui viennent le samedi soir. Ils emploient ce terme générique de faune, la faune des Champs-Élysées, renvoyant en quelque sorte l'autre social dans l'animalité. Bon, ce qui nous a paru intéressant à décortiquer, ce que nous avons décortiqué, et notamment montrant que ce sont des gens qui mangent sur les Champs-Élysées. Et le fait de manger debout est quelque chose qui est choquant.
Ce que vous dites, c'est que ce monde social se renforce, est puissant, et surtout avec ce que vous appelez la contre-révolution fiscale de l'été 2007. Est-ce que le nouveau président, qui est, faut le rappeler, a été le maire de Neuilly, il est issu complètement de ce monde-là, est-ce qu'il le favorise? Vous dites aussi que jamais les inégalités ont été aussi grandes dans notre pays. Faites-nous un peu le portrait actuel là de ce monde-là.
Les réformes fiscales ont été d'abord, il y a eu deux mesures importantes, le plafonnement de l'impôt à 50% des revenus.
Attends, il faut employer un langage guerrier, Michel. Ouais. Le bouclier fiscal, le bouclier les rapports fiscal. Sociaux, aujourd'hui, on en parle en langage guerrier.
Oui, c'est une manière de mener à une de classe, oui. Donc, le plafonnement à 50% des revenus et, d'autre part, la quasi-suppression des droits de succession. Donc, ce sont des allègements fiscaux qui vont profiter d'abord à ceux qui, bien sûr, ont le plus à payer. Qui est-ce qui paye 50% sur ses revenus? Plus de la moitié des ménages français ne payent pas d'impôts sur le revenu, parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisants. Donc là, ça ne les concerne pas, ces réductions fiscales. Ça va concerner les gens qui payent des impôts, et d'autant plus qu'ils en payent plus d'impôts. Autrement dit, ce type d'allègement fiscal est un allègement qui bénéficie aux plus riches.
Donc, on voit qu'il s'agit d'une politique inégalitaire, d'une idéologie inégalitaire. Est-ce que chez les bourgeois, on partage cette idéologie? Est-ce qu'on la conceptualise? Est-ce qu'on l'identifie?
Alors, je ne sais pas si on la conceptualise, puisqu'on est quand même plutôt dans le pragmatisme. La classe bourgeoise n'a pas besoin de faire la théorie d'elle-même. Elle fait, elle est là. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy a été élu à Neuilly avec un score de République bananière, 87% des voix. Ça montre quand même bien la lucidité politique des habitants chics de cette banlieue huppée.
Le rallye Neuilly.
Le vieux Neuilly, ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, des bourgeois, comme on peut dire, âgés ou avec des familles nombreuses.
Ou des familles de l'aristocratie aussi.
Oui, mais en fait, ils sont plutôt de l'autre côté, dans des propriétés plus grandes. Et alors, les vieux hôtels particuliers, il y en a encore dans le vieux Neuilly. Il y en a plus beaucoup, mais il faut aller les chercher dans les petites rues, derrière des immeubles.
Comme ici, en fait.
Comme ici, en fait. Et il reste des maisons à l'intérieur. Il y en a beaucoup rue de Chézy, il y en a rue des Ussy, il y en a quelques-uns.
Qu'est-ce que vous appelez le ghetto, vous?
Oui, enfin, ce qu'on appelle, mais en riant, le ghetto, ce qui était. Non, c'est, le ghetto est encore plus loin. Le ghetto est près du PPP. Je ne sais pas si vous connaissez le PPP. Non. Le putain de pont de puteau. Oui. Parce qu'autrefois, il était très étroit et on mettait une heure pour passer le PPP. Vous allez vous resservir parce que vous êtes tout froid.
Bien sûr.
Est-ce que c'est... Ces inégalités sont permanentes dans toutes les sociétés. Je sais bien que vous n'êtes pas des anthropologues, vous n'avez pas étudié toute la planète, mais on a rêvé depuis longtemps, et on continue de rêver à une société sans classe, où on réduirait les inégalités, où on répartirait les richesses et les fruits du développement ou de la croissance équitablement, etc. Est-ce que les sociétés doivent marcher comme ça?
Ben écoutez, nous en tout cas, on est des chercheurs très franco-français, on est des entomologues de notre société, et voilà, à ce type de questions, on ne sait pas trop comment répondre. Oui, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pays, à part, je dirais, les îles Seychelles, où on a trouvé que l'espace était relativement bien réparti et qu'il y avait une égalité relative entre les citoyens. Là, ce qu'on essaye de montrer dans ce livre, c'est que avec un espace qui est quand même très restreint, les dominants ont un pouvoir fabuleux sur cet espace, au point que, par exemple, on raconte dans le bois de Boulogne comment les cercles, voilà, il y a des cercles dans le bois de Boulogne,
et
des clubs qui ont pour eux à peu près 25 à 30 hectares, et avec des enjeux, des luttes très fortes, parce que, par exemple, la concession du cercle du bois de Boulogne venait à échéance le 31 août dernier, et il y a eu des négociations d'ailleurs qui n'ont jamais fait l'objet de manifestations dans la rue ni de réunions publiques. Ça se passe plutôt dans des salons, c'est plutôt assez feutré, mais ça a sûrement été tendu avec la nouvelle municipalité de Paris.
Alors que vous décrivez des quantités de clubs et de cercles dont la plupart de nous ignore jusqu'au nom, jusqu'à l'existence, et pourtant, c'est bel et bien là que tout se passe, c'est là que les choses se nouent, que le lien social s'établit, que les réseaux se constituent, la reproduction, les mariages, etc. C'est là que ça se fait. Alors, on est intéressé de découvrir ces mondes-là qui sont fermés, communs des mortels, dont je fais partie.
Oui, nous aussi. Les cercles et clubs ont cette caractéristique très importante de rassembler dans un même lieu des gens qui occupent dans la société des positions éminentes dans tous les domaines de l'activité sociale. Concrètement, ça veut dire que vous avez dans les cercles des gens qui sont des banquiers, d'autres qui sont des industriels, d'autres qui sont des chanteurs lyriques, éventuellement d'autres qui sont des peintres, d'autres qui sont membres de l'institut, d'autres qui sont agriculteurs, grands propriétaires évidemment.
Et des politiques ?
Il y a des politiques, bien entendu.
Donc c'est là que se fait la connivence.
Et alors il y a une connivence entre les gens qui ont du pouvoir, quel que soit l'endroit où ils ont du pouvoir.
Donc il y a les médias.
Il y a les médias, bien sûr. Oui.
C'est des clubs échangistes de pouvoir, quoi.
Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, ce qui est intéressant aussi de ce point de vue, c'est de bien prendre conscience que les échanges ne se font pas d'individu à individu. C'est-à-dire que si A vous rend service, rend service à B, B ne va pas devoir rendre service à A nécessairement. Il peut rendre service à C. Parce que ça peut être triangulaire, quadrangulaire, etc. C'est-à-dire que c'est au groupe que l'on rend service. Donc, lorsque vous avez à rendre service à un individu, vous lui rendez service sans attendre qu'il vous le rende directement. Vous savez que par le groupe, d'une façon ou d'une autre, ça vous reviendra.
Oui, alors ça c'est possible parce qu'il y a le principe de la cooptation qui assure chacun de la solidarité de tous les autres, puisqu'on est sûr qu'on est entre ses semblables. Et donc la courtoisie de tous les instants, hein, si consubstantielle à la grande bourgeoisie, s'explique par le principe de base de cette cooptation qui est vraiment de tous les instants.
Pour entrer dans les cercles, il faut deux par un. Deux parrains qui se portent garant de votre personne, donc c'est déjà très difficile de trouver deux parrains, parce qu'il faut vraiment répondre aux critères, qui sont des critères sociologiques, la famille, la conduite, les études, bon, beaucoup d'éléments de ce genre. Donc, à la première génération, c'est très difficile pour quelqu'un qui vient de réussir une belle fortune, qui a fait une belle fortune, ça suffit pas pour entrer dans un cercle en général.
Par les diplômes, on peut entrer.
Alors,
si on est très diplômé, si un fils de quincaillier, par exemple, qui serait énarque, qui serait devenu énarque, comme c'est le cas du président, directeur général de Radio France, monsieur Jean-Paul Cluzel, non. Ses parents étaient quincailliers, il est devenu énarque. Est-ce qu'il peut espérer entrer, faudrait lui demander si c'est pas déjà son cas, dans ce milieu que vous, ces milieux que vous décrivez.
Vous pouvez être prix Nobel, n'importe quoi. En fait, ce sont des critères qui sont vraiment liés à la naissance. Et au fond, les nouveaux qui rentrent dans ces cercles, on peut donner les noms de Bernard Arnault et de François Pinault, c'est-à-dire que c'est la première génération. Ils ont tout fait bon. Ils se sont inscrits dans le cumul des différentes formes de richesse économique, culturelle, sociale et symbolique. Ils ont créé une dynastie familiale. Ils sont dans la transmission à la deuxième génération. Ce sont deux exemples qui montrent bien que le critère de l'excellence sociale dans notre pays, c'est pas du tout la jeunesse et l'innovation comme on cherche à nous le faire croire, mais c'est toujours l'ancienneté et le temps long. Et d'ailleurs, dans les dispositions prises par Nicolas Sarkozy dans le cadre du paquet fiscal, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, priorité a été donnée aux héritiers sur la première génération.
Alors c'est pour ça que nous parlons d'une aristocratie de l'argent. C'est-à-dire que il y a formation, il existe aujourd'hui en France une aristocratie nouvelle qui est en partie constituée de l'ancienne et en partie constituée de la bourgeoisie qui l'a fait grossir considérablement, mais qui est fondée d'abord sur l'argent et ensuite sur tout ce qu'on a dit sur la culture et le système des relations.
Mon ami, sais-tu ce que c'est qu'un rallye? Non, eh bien je veux te l'expliquer. Qui est en deux secondes ne bouge pas. Oh. Ce sont deux sortes de fêtes où se pressent les élégantes et les gens chics, où se passe le coup Paris. On y croit de des nantis, des princes, des bandits, des vedettes, des oh, mais que fait-on dans ce genre de réunion? Oh, la mille fois de l'explique, et cela sera pas long. Oh, c'est très ennuyeux, on y joue à deux, guitare ou à
Et donc là, on est sur le parvis de l'église Saint-Eustache, hein. C'est pas loin de la rue Montorgueil, de la rue...
Oui, exact. Quartier des quartiers piétons.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce soir, on a des invités.
Des invités, c'est qui ?
Ben, ce sont ces personnes qui viennent faire la queue ici dehors pour manger, ce qu'on va leur proposer. Et donc, pour les accueillir, on installe ces barrières de manière à ce qu'ils puissent faire la queue tranquillement.
Vous êtes bénévole ?
Voilà, donc moi je fais partie des bénévoles, on est une trentaine par soir, il y a une équipe pour chaque soir de la semaine.
Et expliquez-moi, vos invités dînent dehors.
Voilà, nos invités, malgré le froid, vont manger ici sur le parvis. Certains de nos invités ne nous donnent pas toute la reconnaissance qu'on attend, donc ils sont vis-à-vis de nous, parfois... c'est méchant. Moi, personnellement, j'attache d'importance à vivre pendant quelques heures la même situation que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire vivre dans le froid, c'est-à-dire ce qu'ils vivent en permanence. Et je trouve que on a à cœur de vivre dans les mêmes conditions une toute petite partie de la journée.
Mais peut-être qu'eux, ils aimeraient inverser, vivre dans vos conditions une toute petite partie de la journée.
Oui, mais c'est pas le but de l'association.
Alors, face justement à cette violence que constituent ces accumulations d'argent, il y a la justification. Il y a les justifications, on a parlé de l'art, on a parlé du mécénat, on a parlé des relations. Il y a aussi, évidemment, les bonnes œuvres. Tout le côté humanitaire, les choses qui vont faire qu'on voilà, on se sent bien soi-même de faire ces choses-là, et en même temps on donne de soi une image évidemment valorisante, et puis après tout on fait le bien aussi.
Oui, ça vient effectivement légitimer l'arbitraire au fond de la fortune, mais il y a aussi quelque chose qui est encore plus fort que tout ça, c'est le fait que les privilèges finissent par être complètement incorporés et devenir des qualités naturelles, alors que on est dans l'univers arbitraire. Au fond, les dominants, ils sont dominants, et puis ben ça se voit. Hein, on dit d'une femme, je parle pas du tout de moi, hein, je vous rassure, elle a de la classe, et donc on veut dire bon, ben elle en est, hein, parce que elle est fine, élégante, elle a un port de tête altier, elle n'a pas de franges, voilà.
De franges ?
Ben, je suis désolée, c'est parce que j'en ai une que je dis ça, et que le front doit être dégagé.
Ah bon,
pour
d'accord.
Manifester.
Il faut avoir le front dégagé.
Ben oui, c'est
pour...
mieux, c'est mieux.
Ah bon. Vous dites que je peux avoir des diplômes, et j'ai très peu de chances d'entrer. Mais si je veux faire une carrière politique, supposons, si j'avais voulu faire une carrière politique, j'ai commencé un petit peu tard, comment ferais-je pour entrer dans ces mondes-là qui me sont indispensables pour ma carrière ? Si je veux réussir, si je veux faire une carrière politique réussie, si par exemple je suis un immigré d'une famille immigrée hongroise et que je veux...
Oui, tu as, je pensais à cet exemple.
Je pensais à un exemple au hasard qui me traverse l'esprit. Oui. Comment ferais-je pour entrer dans ce monde et y faire ma place et tisser des relations
c'est un long travail auquel celui auquel nous pensons s'est consacré pendant 20 ans à Neuilly. Avant, il a commencé à y travailler, mais à Neuilly, je pense qu'il...
Là, j'ai pas besoin ni d'argent, ni de diplôme, mais simplement un sens politique.
Oui, enfin, il y avait quand même pas beaucoup d'argent, mais il y avait quand même des diplômes du côté de Sarkozy. Mais il a, pendant 20 ans, à Neuilly, il s'est constitué un réseau de relations qui est encore vivant et actif aujourd'hui. Et par exemple, il a créé une association
Club Communication.
Le Club Communication, qui rassemblait en particulier des gens qui, à Neuilly, étaient des membres des médias, des membres influents des médias. Enfin, les réseaux sociaux utiles, Neuilly a été certainement très très utile pour les constituer. Étant maire pendant 20 ans de cette ville-là, ça laisse des traces.
Alors, il y a d'autres lieux que vous évoquez, c'est les villégiatures, c'est les bords de mer, c'est d'autres endroits. Vous êtes pas mal baladé, hein, pour quand même.
Ah ben, on est plutôt des sociologues heureux.
Oui.
D'abord parce qu'on travaille tous les deux ensemble et puis
on se méfie jamais de vous quand même. Enfin, on se méfie. Il n'y a pas de raison que vous êtes, vous avez une physique tout à fait honorable, de gens tout à fait. Mais il n'y a pas un moment où on vous demande mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous nous posez ces questions.
Ben, c'est-à-dire que si on explique toujours
quel est votre but,
ce qu'on cherche. D'abord, on est des deux sociologues connus. Je crois que c'est notre 14e ou 15e livre. Donc les gens savent qui on est. On n'a jamais louvoyé. On pose nos questions. Bien sûr, quand on fait un travail sur, par exemple là, sur les ghettos du Gotha, on a parlé. Ben si, on a parlé qu'on cherchait des gens qui étaient militants, mobilisés, motivés pour la défense des beaux espaces. Mais alors, l'astuce, c'est que les beaux espaces, ce sont leurs espaces.
C'était relativement facile de faire parler les gens sur la manière dont ils défendaient leur château. Ou bien tel quartier de Paris, ou bien ce morceau de littoral, c'était facile parce que leur intérêt personnel se confondait avec l'intérêt général. Alors pourquoi ? Parce que le château fait partie du patrimoine national. Défendre le château et l'entretien du château, c'est d'une certaine façon défendre le patrimoine national. Le bout de littoral dont il est question, il est défendu en tant que lieu naturel à préserver absolument. Des atteintes des campeurs, etc. Donc l'intérêt des gens qui avaient la villa juste derrière ce littoral là était de le geler, enfin de faire qu'il ne soit pas construit de façon à ce que il soit préservé aussi pour tout le monde. Donc il se trouvait en position
préservé pour tout le monde sauf pour les campeurs qui...
sauf pour les campeurs. Ouais. on peut plus camper, voilà, on ça. Se fait virer, mais les gens peuvent encore se promener. Donc l'intérêt général, l'intérêt privé se confond parce que, comme disait Monique, ils occupent les beaux espaces, les espaces à préserver.
On a beaucoup parlé de privilèges et de la justification des privilèges, de la reproduction des privilèges, etc. Mais quand même, il y a eu des époques historiques où on a voulu abolir les privilèges. Est-ce qu'on est dans une époque comme ça ? Vous êtes sociologue, non pas historien, mais enfin à force, on devient.
C'est-à-dire que ce qu'il est question d'abolir actuellement, ce sont les privilèges des cheminots. Ce qui est une façon peu progressiste de voir les choses. Pardon.
On a choisi un poème de Robert Desnos, ouais, en exergue de ce livre, Le Pélican de Jonathan, qui au matin pond un œuf tout blanc d'où il sort un pélican qui lui ressemble étonnamment, et cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Bon, c'est aussi une façon d'attirer l'attention
sur notre possibilité de faire des omelettes.
Voilà, et puis que il y a eu les émeutes urbaines. Nous, c'est une entrée, c'est vrai, très spatiale qu'on a choisi pour ce livre. On a choisi de travailler sur les ghettos dorés. Il y a eu ces émeutes. Nous, on souhaite que cet ouvrage apporte sa contribution, fût-elle modeste, à la réflexion sur le fait que on ne peut pas toujours concentrer les handicaps dans certains espaces. Les privilèges dans d'autres.
Et voilà, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot pour leur livre Les ghettos du Gotha aux éditions du Seuil. Comment la bourgeoisie défend ses espaces. Et d'autre part, nous vous signalons que ce soir à 20h, il y aura une projection à l'avant-première du documentaire « Je suis chez moi » de Rama Benamou El Madani sur les enfants sans papier. La projection aura lieu à la Bellevilloise, 20 rue Boyer, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un conseil de Charlotte Perry. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org,
basse-ba.org, qui est le site non officiel de la basse. J'y suis à la technique aujourd'hui. Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est beau la musique hein, derrière moi. Là, on rêve, on est vraiment dans les grands espaces, c'est magnifique. Réalisation Yann Chouquet et Coyenne Guyenne, assistante Charlotte Pay. Et c'est Christophe Humbert qui aujourd'hui s'est spécialement occupé de vos petits messages laissés dans le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.